l'association mayonnaise Lit la Vie, les journaux vite lus qui permettent justement de rendre accessible l'actualité aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. L'association qui s'est depuis développée dans toute la France, elle a même proposé 2 numéros spéciaux pour présenter les programmes des candidats à la présidentielle grâce à des mots simples et un rappel du contexte. Ces journaux se veulent accessibles à tous et on a feuilleté leur page avec l'une de ses principales rédactrices.
Alors je suis Anne Janot, je suis directrice de publication de l'association Lit la Vie et je suis présente depuis la création de l'association, donc nos services existent depuis 2000, voilà.
Depuis 2000, je crois que l'association portait un autre nom à sa création.
Quand on a créé l'association au départ, on était vraiment destiné aux personnes sourdes. Donc on a constitué notre service initialement sous les statuts de l'association des sourds de la Vallée de la Mayenne. Comme on a évolué vers d'autres publics, on a décidé de créer notre propre association qui s'appelle aujourd'hui Lit la Vie.
Et alors qu'est-ce qui en a été à l'origine? Pourquoi justement avoir voulu créer cette source d'information pour les personnes sourdes et malentendantes?
Comme je le disais, notre association elle date de 2000 et à cette époque-là, c'était pas très simple pour les sourds d'accéder à l'information. Il n'y avait pas encore de sous-titrage à la télévision ou très peu. La radio, évidemment, pour les sourds, c'est compliqué. Et on estimait qu'il y avait à peu près 70% d'illettrisme dans la population sourde. Enfin, donc je parle vraiment des sourds de naissance. Hein. Sachant que pour les sourds, enfin, ils ont tous été scolarisés, ils ont tous appris à lire, hein, bien sûr. Mais la difficulté, c'est que nous, on s'en rend pas compte, mais notre vocabulaire s'enrichit quotidiennement avec nos échanges avec les voisins, avec les médias, avec tout ça. Et du coup, pour les sourds, c'est plus difficile. Et en plus, il y a aussi la difficulté qu'ils peuvent connaître un mot en langue des signes, mais il n'y a pas de correspondance avec l'écrit. Donc, pas comme nous, en tout cas à l'oral. Donc, notre idée initialement, c'était de... On voulait leur donner l'accès à l'actualité et à l'information en se disant que c'est quand même un support important au lien social, que souvent dans les rencontres avec les gens, on évoque la météo, l'actualité. Et du coup, l'idée, c'était de donner des clés de compréhension de notre environnement. Et du coup, on est parti sur l'idée de créer un journal avec des mots simples et des phrases courtes, c'est-à-dire du vocabulaire courant, si possible. Et à cette époque-là, on le diffusait par fax. Donc, pendant très longtemps, notre journal s'est appelé Infofax. Et donc, on a réuni des sourds en leur demandant ce qu'ils aimeraient trouver dans ce journal. Et on est parti sur 2 pages, 2 fois par semaine. Une première page sur l'actualité nationale et internationale. Et une deuxième page qui évoque toujours d'ailleurs, plus spécifiquement l'actualité sourde. Donc, évidemment, on va parler de choses comme Coda, qui a reçu l'Oscar du meilleur film avec son acteur sourd qui a été primé aussi. Hier, on parlait d'un livre qui a été écrit par un Ukrainien qui s'appelle La République sourde. On parle de sujets divers qui vont les toucher plus directement.
Donc ça, effectivement, c'est pour le choix des sujets de la deuxième page. Comment est-ce que vous choisissez ceux de la première page? Pour le coup, on peut se dire l'actualité dans la France et dans le monde, c'est vaste. Comment on choisit de tout résumer en une page et en plus avec moins de mots, puisque l'idée, c'est de simplifier aussi?
Alors effectivement, c'est très complexe. Oui, ça fait qu'on a 2 fois une page pour évoquer l'actualité. On essaye vraiment à la fois de parler de choses qui font les sujets de discussion aujourd'hui. Évidemment, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la présidentielle, on va parler des principaux sujets, avec toujours la volonté de contextualiser, d'expliquer le vocabulaire aussi. Par exemple, le RIC, par exemple, on va réexpliquer ce que c'est que le référendum d'initiative citoyenne parce que les gens n'ont pas forcément le contexte, les personnes auxquelles on s'adresse. Après, on essaye de plus en plus, parce que c'est une très forte demande de nos lecteurs aujourd'hui, d'évoquer aussi l'effet positif. On se rend compte que vraiment, l'actualité est plombante en ce moment entre le Covid et le reste. Et du coup, on constate qu'il y a vraiment une envie de mettre en avant des initiatives positives. Là, je pense par exemple à un article sur une dame dans un village en Angleterre qui a réussi à embarquer toute la commune sur le fait de réduire les déchets plastiques, quoi. Enfin, voilà, c'est des initiatives aussi de citoyens qui permettent un petit peu de faire bouger les lignes et puis de se dire que chacun peut être acteur aussi.
Donc effectivement, ça c'est la philosophie aussi du premier, tout premier journal, alors qu'il n'était même pas un journal par mail, mais un journal par fax. Forcément, les années ont passé, donc plus de fax, mais des mails aujourd'hui. Et puis aussi, un public plus large, vous le disiez. À partir de quel moment vous avez commencé à viser d'autres publics que les personnes sourdes et malentendantes ?
Alors, je crois que ça date de 2003 à peu près. On a rencontré en fait des professionnels qui travaillaient avec d'autres publics qui nous disaient que la problématique de l'accès à l'information les concernait aussi et que ça les intéressait d'avoir juste la première page du journal puisque la deuxième page pour les sourds ne les concernait pas. On avait rencontré notamment l'enseignant de la maison d'arrêt de Laval qui nous disait que avec les détenus, ça lui semblait super intéressant de pouvoir évoquer certains sujets et que malheureusement, la presse scientifique était essentiellement de la presse pour enfants avec du coup des sujets qui sont moins destinés aux adultes. Donc on était parti sur l'idée de juste proposer la première page du journal pour d'autres publics. Et puis on a fait des rencontres humaines qui nous ont fait réfléchir aussi sur l'idée de faire des déclinaisons de deuxième page pour d'autres publics. On a rencontré notamment Bernard Hervy qui était à ce moment-là président du groupement des animateurs en gérontologie, qui travaillait à l'hôpital Broca, à la PHP à Paris. Et en fait, on lui avait soumis le journal pour savoir si éventuellement ça pouvait être intéressant pour les personnes âgées, parce qu'on nous avait interpellé sur le fait que dans les EHPAD aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent d'autres pays qui n'ont pas forcément eu accès à l'écrit quand ils étaient plus jeunes, ou aussi le fait que avec certaines pathologies, les gens s'éloignent de l'écrit. Et en fait, il nous a reçus et il avait testé le journal auprès des résidents de l'hôpital Broca. Et il nous a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas une deuxième page comme vous le faites pour les sourds, mais spécifique aux personnes âgées? Donc honnêtement, à cette époque-là, moi je connaissais pas bien ce public et je voyais pas trop quels pouvaient être les contenus. Donc on a travaillé avec 44 EHPAD à travers la France pour essayer de définir avec les animateurs et les résidents qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Et du coup, maintenant, tous les mardis, la deuxième page est ouverte à l'expression des lecteurs. Donc ce sont les résidents des EHPAD qui nous écrivent soit des témoignages, des poèmes. On peut lancer des appels à témoignages, comme là, en fait, on a demandé aux gens, si vous étiez président, qu'est-ce que vous aimeriez. Et on a reçu d'ailleurs énormément de textes. Et alors la deuxième page, le jeudi, on revient sur un fait historique que les gens ont vécu, dans l'idée que, notamment pour ceux qui ont plutôt la mémoire des faits anciens, ils puissent évoquer leurs souvenirs. Et puis, dans l'idée de transmission aussi, dans l'idée que eux, ils ont vécu cette période de l'histoire et qu'ils peuvent nous la raconter. Et on a des faits sur des articles qui concernent des personnes de leur âge, c'est-à-dire on est plus nous sur pas sur les jeunes seniors dynamiques, mais plus sur les personnes plus âgées. On essaie aussi encore une fois de mettre en avant des initiatives positives, des infos insolites pour amener un petit peu de légèreté. Sachant que vraiment l'idée de l'utilisation de ce journal, c'est que ce soit les professionnels qui sont en part, que ce soit alors, dans les EHPAD, c'est essentiellement les animateurs et c'est vraiment un support à l'échange, à la discussion. C'est un prétexte pour se retrouver et puis créer du lien entre les personnes et se raconter, témoigner, dire qui on est à travers ce qu'on pense de l'actualité, de la société, de son évolution. On est vraiment sur l'idée, notamment dans les EHPAD, que les personnes, c'est pas que des corps, quoi, qu'ils ont une histoire, un vécu, qu'ils ont tellement de choses à transmettre et à témoigner que c'est important de leur créer des espaces de parole, quoi. Ça, c'est une des déclinaisons du journal et en fait, on a deux autres publications vraiment sur le même principe, sur l'idée que on l'adresse plutôt à des professionnels et que ça sert à des supports à l'échange. Donc, on a l'étudié là plus pour des publics en situation de handicap mental et puis on a une autre publication qui est plus pour le public, comme je disais tout à l'heure, ça peut être les détenus, ça peut être les primo-arrivants ou les personnes qui sont en apprentissage du français. On a des lieux comme à la Croisée qui sont abonnés depuis très très longtemps et qui organisent régulièrement des temps d'échange avec les personnes. Et c'est arrivé aussi du coup que on fasse évoluer aussi nos concepts. à la croisée, par exemple, à un moment, ils nous ont proposé de publier des recettes de cuisine. Bah, on est parti sur cette idée de temps en temps. On l'a fait au moment où l'échange était pertinent.
Donc il y a un lien, oui, assez important de ce que je comprends avec les professionnels, puisque là, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui reçoivent ce journal donc deux fois par semaine ?
Aujourd'hui, on a à peu près 1300 abonnés à travers la France, mais sachant que c'est essentiellement des structures. Alors, on a vraiment beaucoup d'EHPAD, on a 750 EHPAD à peu près. Et donc, après, dans l'EHPAD, c'est utilisé par une dizaine de personnes en atelier. Des fois, on a des établissements qui le distribuent en chambre à une soixantaine de résidents. Enfin, du coup, le nombre de lecteurs, je sais pas, on est peut-être autour de plutôt 13 000, quoi. Pas trop en fait.
Et donc tout passe en tout cas par la manière de présenter les infos, puisque le fond de toute façon il est le même que des journaux classiques. Donc vous le disiez, c'est des phrases plus courtes, des mots pas trop compliqués, c'est surtout ça auquel il faut faire attention.
Oui, c'est essentiellement ça. La contextualisation aussi, elle est importante pour nous, parce que souvent on s'adresse à des publics qui n'ont pas toujours les prérequis. Après d'ailleurs on a développé un projet un peu annexe, mais l'info c'est clair. Du coup, on a fait récemment un dossier sur le complotisme, par exemple. L'idée c'est de réexpliquer ce que c'est, contextualiser. Et donc c'est des dossiers qui sont plus complets, parce que quand on écrit des journaux, quand on va parler du réchauffement climatique, c'est compliqué de réexpliquer à chaque fois ce que c'est que le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre. Donc là, ça nous permet de faire des renvois sur notre site internet vers ces dossiers qui sont en accès libre et qui sont gratuits. Et qui sont aussi traduits en langue des signes. On a un partenariat avec l'association Arsigne à Paris, et donc c'est des personnes sourdes qui traduisent les contenus en langue des signes. Et on sait que c'est des supports qui sont notamment pas mal utilisés dans les écoles pour sourds aussi. Et on a d'ailleurs un projet avec l'Institut des jeunes sourds de Paris et avec le Centre Charles-Bouin à Angers pour développer avec les jeunes des thématiques. Là, on travaille sur le racisme, on travaille sur les animaux dans la société avec ces jeunes, voilà.
Donc l'idée, c'est qu'il y ait aussi, en tout cas là je pensais aux jeunes, mais bon, ça marche aussi pour tout public, une éducation aux médias. Forcément, c'est plus facile d'être un citoyen aujourd'hui quand on est informé et quand on comprend un petit peu ce qui se passe.
Là, c'est vraiment ça, c'est essayer de, en tout cas à travers ces dossiers thématiques, le premier c'était il y a 5 ans, c'était sur le rôle du président, mais on en a refait un au moment des municipales, par exemple, pour rappeler, mais là vous allez aller voter, et du coup, quelle est la place de la municipalité, de la mairie dans nos vies en fait. Honnêtement, en écrivant ces dossiers, moi je me rends compte que j'apprends plein de choses, et c'est le cas aussi des personnes qui autour de moi les lisent. Ils disent mais c'est vrai que ça permet de replacer les choses dans leur contexte, de se rappeler et de se dire oui, là par exemple le prochain dossier ce sera sur les animaux, et du coup à la fois les animaux d'élevage, la disparition des animaux sauvages, la place des animaux domestiques dans notre quotidien et les législations autour de ça. Mais ça peut être sur les déchets, ça peut être sur... Et du coup, l'idée, c'est qu'on ait des bases, en fait, pour décoder l'actualité, en fait.
Et Anne Jeannot a déjà été sollicitée par les professionnels pour faire des dossiers avant les élections législatives. Pour recevoir les numéros et avoir plus d'infos, tout se fait en ligne sur lilavie.fr.